السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc je vous ai dit de me donner la date, peut-être vous êtes absent. Donc jeudi, nous sommes inshallah ta'ala aujourd'hui, le mercredi 12 décembre, mercredi 12 décembre 2012. 12 décembre, mercredi 12 décembre 2012, correspondant donc au 28 Muharram, c'est-à-dire le 28 Muharram 1434, correspondant au 28 décembre, au 12 décembre 2012, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, sans tarder, nous allons, inch'Allah ta'ala, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, répondre à quelques-unes de vos questions en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas fait cours aujourd'hui, j'étais absent, je viens juste d'arriver. Akh Mohamed, est-ce que tu es prêt, inshallah ta'ala, pour les premières questions? Sinon, est-ce qu'on va commencer par celles qui ont levé la main? Tfadlal.
Alors, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Des bracelets appelés bracelets Shmambala se vendent actuellement un peu partout dans le monde. Voici leurs caractéristiques. Bracelet Shambala serti de cristaux, perles de serrage composées de magnétite. Il s'imprègne des symboles et coutumes bouddhistes et tibétaines pour redonner aux bijoux leur plus belle valeur. En s'habillant d'un bracelet tissé tel un macramé et renferme des boules pavées de cristaux. Ces bracelets ont déjà séduit la planète People pour le côté chic et leur vertu mystérieuse et spirituelle qui s'y rattache. Ma question, est-il permis d'acheter ou de porter ce genre de bracelet? Barakallahu fikum shir, qu'Allah vous récompense. J'espère que vous avez bien compris, cher, la question. Sinon, je répète, Inch'Allah.
J'ai pas compris la question, cher. J'ai pas compris. Tu as employé beaucoup de mots que je ne connais pas. Des choses nouvelles. Femme. Tfadlal, aoud, Inch'Allah, la question. Et toi aussi, essaye de bien lire la question. On va voir, Inch'Allah, ta'ala. Tfadlal.
Naam, cher. Je vais essayer de bien. Alors, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Des bracelets appelés bracelets Shambhala se vendent actuellement un peu partout dans le monde. Voici leurs caractéristiques. Bracelets Shambhala sertis de cristaux, perles de serrage composées de magnétite. Il s'imprègne des symboles et coutumes bouddhistes et tibétaines pour redonner aux bijoux leur plus belle valeur, en s'habillant d'un bracelet tissé tel un macramé et renferme des boules pavées de cristaux. Ces bracelets ont déjà séduit la planète People pour le côté chic et leur vertu mystérieuse et spirituelle qui s'y rattache. Ma question, est-il permis d'acheter ou de porter ce genre de bracelet? Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que vous connaissez tous: laisse ce qui te fait, ou bien délaisse ce qui te donne des doutes au profit de ce qui ne t'en donne pas. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. Donc je comprends, j'ai jamais vu ces bracelets, je comprends que ces bracelets sont liés avec des traditions de kofar et de bouddhistes et d'adorateurs de Bouddha et du soleil, je ne sais qui. La preuve, c'est que si une personne les voit, automatiquement elle a dans son cœur ce rapprochement et cette pensée que ça vient du Tibet, ça vient des adorateurs, des statues, des idoles, et comme ça. Et je crois que celle qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait devancer son modèle sur toute chose n'est pas intéressé, n'est pas beaucoup intéressé par yani, la parure de la dunya. Elle ne prend de cette dunya que ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin, ma'alish, pour se parer, ma'alish, pour se marier, son mari, ma'alish, pour se faire belle, mais pas au point de prendre yani, des choses qui contiennent des choubouhettes, des ambiguïtés, et des, je ne sais pas, qui a rapport avec des kofars, avec ceci. Tout cela, je m'en éloigne. Tout cela, je dois m'en éloigner. Naam, la vie est courte, la mort nous guette à tout instant, je dois m'efforcer et faire des efforts pour me rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas d'aller acheter des choses de bouddhistes et de je ne sais qui, naam, qui yani, attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et induire les gens en erreur. Surtout si les gens me voient avec, ils disent, celle-là, elle est en djilbab et elle met des choses pareilles, donc ça se fait, etc. On devient un modèle de mal, comme on a vu une fois. Il y a les modèles de bien, a'immat al-khayr, et a'immat shar, et des modèles de mal, a'udhu billah. Donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous ont préservés et que la personne s'en éloigne, il y a dans les parures des femmes et les bracelets des millions de choses qu'elle pourrait acheter de halal et yani, pour s'éloigner de cette choubha, inshallah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, voilà, cher. Je vis en France et j'avais un compte bancaire ici. Mais je l'ai transféré au Maroc. D'habitude, je dois payer zakat au mois de janvier de chaque année. Mais cette année, vu que mon compte bancaire est au Maroc, je ne peux pas retirer l'argent depuis la France. Et donc, il faudrait que je me déplace au Maroc pour retirer cet argent. Je voudrais savoir si il était possible de payer zakat avec un peu d'argent que j'ai ici en France. Barakallahu fik, cher, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Amin. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Ici, je voudrais attirer votre attention sur deux choses en ce qui concerne la zakat. La première, c'est que la zakat, on doit la sortir d'après les mois musulmans et non pas les mois chrétiens. Car la personne ici a dit janvier, de janvier à janvier, elle sort la zakat. Si une personne fait sortir sa zakat dans les mois chrétiens et pas les mois musulmans, au lieu de faire sortir 2,5%, elle doit faire sortir 2,75%. Vous avez compris? Au lieu de faire sortir 2,500, elle doit faire sortir 2,750. Donc, la zakat, on doit la sortir d'après les mois musulmans. Sha'ban, Shawwal, Ramadan, Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, et comme ça. D'après les mois musulmans, pas les mois chrétiens. Il y a un décalage, vous savez qu'il y a un décalage. Chez nous, il n'y a pas 365 jours, par exemple, dans l'année. Il n'y a pas des mois de 31. Il y a 29, 30, c'est tout. Donc, il y a des décalages. Si tu laisses, si tu fais sortir d'après les mois chrétiens, tu dois faire sortir un peu plus. Naam, c'est le nôtre qui est plus court. Il y a des premières. La première, il y a une faute qu'on ne doit pas faire. Et la deuxième, c'est que les gens, ou là beaucoup de gens croient que, croient que si tu as le seuil de la zakat, par exemple, c'est combien le seuil chez vous, musulmans? C'est combien le seuil chez vous? Je crois 2800 euros, quelque chose, 3000. Vous savez c'est quoi le seuil? Le seuil, c'est la somme qui, lorsqu'on l'atteint, on doit sortir la zakat. Nisab, naam. C'est combien de nisab chez vous? Vous savez, musulmans? À peu près. Est-ce que tu peux me dire nisab là? 85, pas 80. Mais c'est combien chez vous? Plus 3000 euros, hein? Plus 3000. Bon, vous ne savez pas. Personne ne saurait dire. Je suis avec des. Comment on appelle ça? Je suis avec des pauvres, hein, qui ne font jamais la zakat parce qu'ils n'ont pas le seuil. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala les enrichir. Et moi avec eux. Al-Muhim. Je voulais dire. Bon, qu'est-ce que je voulais dire sur le seuil, hein, de la zakat? Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il a dit que. Il sortait de janvier. Non, ce que je voulais dire. Supposons que j'ai 10 000 euros. Bon, maintenant, quand j'ai 10 000 euros, ça veut dire que, archi sûr, j'ai le seuil. Ça. Maintenant, ça fait une année que j'ai cet argent. Donc, je dois faire sortir 2,5% de cet argent. Taïb. Beaucoup de gens croient que l'argent que je dois faire sortir des 10 000 euros que j'ai, yani, ça doit être obligé des 10 000 euros. C'est-à-dire, il pense que. Il pense que je dois aller vers cet argent que j'ai à la banque ou là, et faire sortir des 10 000 l'équivalent de yani 2,5% pour faire sortir la zakat. Yani, je veux dire, où est la faute? Il croit que c'est l'argent lui-même. Yani, même si j'ai une autre somme chez quelqu'un, par exemple, un peu d'argent chez quelqu'un, il pense que non, je ne peux pas sortir. Et cette personne me rend la dette que j'ai, je peux pas sortir la zakat de l'argent qu'on m'a rendu. Je dois sortir la zakat de l'argent que j'ai là-bas, au Maroc, dans la banque ou là chez mon cousin. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La zakat, le mohim, tu sors 2,5% de l'argent, mais pas spécialement de l'argent que tu as, yani, si tu as un autre argent chez quelqu'un ou là qui va te le donner, tu sors cet argent. Pas de problème. Mousselim, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ici? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ou là, vous n'avez pas compris? Vous avez compris? Naam. C'est-à-dire que, el-mohim, l'argent. El-mohim, je sors l'argent de la zakat. C'est pas obligé que je sorte de cet argent, yani spécialement lui, cet argent qui est là. Par contre, il parle peut-être entre le dirham et l'euro. Asma, le dirham ou l'euro, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire. Il fait 3 500 euros sur le taux de l'or. Non, si Yannis, s'il veut faire sortir la zakat, il compte combien il a d'argent, par exemple, dans la banque, si l'argent se trouve. Maintenant au Maroc, il voit par exemple l'argent qu'il a au Maroc, s'il est devenu en dirham maintenant. Il dit, donc en dirham, par exemple j'ai 10 000 dirhams, donc 2,5% par exemple, c'est 2, par exemple là, c'est 250 dirhams que je dois donner. 250 dirhams, là-bas il dit au Maroc, faites sortir 250 dirhams, ou bien il donne l'équivalent ici, s'il est en France, il donne l'équivalent en euros. Il dit 250 dirhams, aujourd'hui c'est tant d'euros. Donc je donne tant d'euros. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Tfadlal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son?
Alhamdulillah. Donc la question suivante. Naam, tfaddal cheikh.
Pour ne pas oublier, avant de passer à une autre question, c'est pour ça que j'ai demandé le mic. Beaucoup de gens ne savent pas aussi que le fait d'attendre une année pour faire sortir la zakat n'est pas une condition. Je veux dire par là. Je veux dire par là que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le maximum que tu puisses garder cette somme chez toi. C'est une année, pas plus, et tu dois sortir, sinon tu dois sortir la zakat. Mais, voilà ce que je veux dire. Mais si toi, tu veux sortir ta zakat avant que ne tourne une année sur ton argent, c'est permis. Vous avez compris? Il y a des gens qui ne savent pas ça aussi. Ils croient que, par exemple, on vient de lui donner 10 000 euros au premier Ramadan. Premier Ramadan, quelqu'un m'a donné 10 000 euros. Il croit que si je veux faire la zakat dans 2 mois ou les 3 mois ou les 4 mois ou les 5 mois ou bien 8 mois, il dit c'est pas possible. Il dit il faut attendre là, le premier Ramadan de l'année prochaine pour que je puisse donner. Alors que c'est pas vrai. Seulement Allah Ta'ala t'a dit, voilà, tu as maximum, c'est quand ça tournera une année sur ton argent. Mais maintenant, si tu veux faire sortir toi 1 mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant, Allah ibarak, c'est pas obligé, tu veux faire quelque chose bénévolement. Allah ibarak, l'obligation devient combien? Quand est-ce? Quand ça tourne une année. Mais si ça tourne pas, et tu es sûr, toi, que ça va tourner, pourquoi l'islam t'a dit attends une année? T'as dit attends une année car on ne sait jamais. Peut-être l'année ne va pas tourner et tu vas dépenser ton argent. Donc il n'y a pas de zakat. Mais si toi, par exemple, tu es sûr que l'année va tourner et que tu as trouvé quelqu'un qui donnait la zakat dès maintenant, il vaut mieux lui donner dès maintenant. N'attends pas une année. 6, 7 mois, allez, tu dis je donne pour cette année. Vous avez compris? Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut apprendre, car des fois la personne trouve un pauvre. Et elle doit faire la zakat, elle dit non. Il reste encore 15 jours pour que je puisse la sortir. Non, sors-la maintenant. C'est possible. Et j'ajoute une dernière faïda dans la zakat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à son oncle, dans un hadith authentique, de donner 2 années d'avance la zakat. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui sait que son argent va rester des années chez lui, il peut donner bi'idhnillah par 2 ans à la suite, à la fois. Il prend l'argent, il fait le calcul de 2 années et il les donne à la fois. Ensuite, il n'aura pas de zakat jusqu'à 2 années. Ça, c'est possible. Le prophète l'a permis à son oncle, radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith authentique. Tfadlal.
Donc, question suivante. Question d'un frère. Salam alaykoum, cher. Hafizakoum Allah. Vous aviez dit une fois que la Umrah devenait obligatoire, Hajj. Frère, il m'a demandé le délil. Cher, est-ce que vous vous souvenez du délil? Barakallahu fikoum. Fadal, cher.
Naam, le délil, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux femmes, naam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé un djihad sans armes. Il a dit l'umra et le hajj. L'umra et le hajj. Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique. Donc l'umra, une fois dans la vie, c'est obligatoire. Et le hajj, une fois dans la vie, c'est obligatoire, c'est un pilier. La Umrah, c'est obligatoire et le Hajj, c'est un pilier. Et celui qui peut les faire les deux en un seul voyage, qu'il les fasse. Ce sont ce qu'on appelle tamattu. Mais si quelqu'un n'a pas les moyens d'aller au Hajj, par exemple en Algérie, le Hajj, c'est des. Il faut être presque milliardaire pour faire le Hajj. C'est devenu comme ça maintenant, très très cher. Donc, il n'a pas les moyens d'aller au Hajj. Alors, au moins, qu'il fasse la deuxième obligation qui est quoi? Qui est la Umrah. Qu'il ne laisse pas Umrah passer parce qu'il n'a pas pu faire le hajj. Wallahu ta'ala alam, tafadhal.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah. Lorsqu'on donne en main une somme d'argent à un frère qui part en Umra ou au Hajj afin qu'il la distribue à des nécessiteux à Mecca, peut-on espérer que le monde soit multiplié par 100, afin par 100 000, comme l'est la prière faite à la mosquée sacrée? Wallahu a'lam, wa jazakum Allah khayran. Cher, qu'Allah Ta'ala vous préserve, j'aime beaucoup vos cours, qu'Allah Ta'ala vous accorde l'Al-Firdaus. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam, hayyak Allah, wa barak Allah fik. Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'atiyaka ma tamannayta li, wa li jami' al-hadirina ma'ana. Al-muhim, il n'y a aucun dalil pour la chose qu'il vient de citer maintenant. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas oublié de mentionner une chose aussi yani, grande, masha'Allah. Si la sadaqa était de 1000 à Médine, par exemple, et de 100 000 à la Mecque, comme la prière c'est 1000 à Médine et 100 000 à la Mecque. Si la sadaqa aussi, l'aumône, c'était comme ça, jamais le prophète sallam n'aurait omis de nous apprendre une chose pareille pour nous exhorter à la faire. Donc on dit quoi? On dit qu'il n'y a aucun dalil qui dit que yani, ça va se multiplier à ce nombre-là. C'est pour ça qu'on se suffit à la sunna sahiha et il n'y a pas de sunna en ce sens d'après mes connaissances. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal.
Question suivante qui est assez longue, chère, donc je ne sais pas si vous allez tout comprendre. Je viens de la recevoir. Et je ne sais pas donc si c'est un frère ou une sœur. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme mariée, diplômée de médecine en Algérie, souhaite travailler dans un établissement hospitalier ou reprendre ses études. Mais après le mariage, le mari a changé d'avis concernant le travail et les études de sa femme en milieu hospitalier pour cause principale la mixité, les tenues professionnelles et les gardes de nuit, le manque aux occupations du foyer. Après le Hijra en Algérie, il a réfléchi à lui ouvrir un cabinet médical comme solution de consolation, mais cela n'a pas abouti. La femme en veut donc à son mari et relance régulièrement le sujet qui date depuis peut-être 10 ans. Elle rajoute le fait que leur situation est difficile et que son mari n'a toujours pas de travail depuis le Hijra qui date de 5 ans. Elle lui demande également régulièrement le khola ou le divorce avec comme raison un mauvais caractère de son mari. Le mari pense très sérieusement accepter devant la multiplication des demandes et querelles, mais s'interroge sur les questions suivantes. Doit-il obligatoirement accepter la demande de khola divorcée? Si le mari prononce le khola, doit-il rester en sa compagnie jusqu'à la fin du premier cycle suivant des menstrues? Quels sont les droits de la femme et des enfants après le khola ou le divorce? Doit-il lui fournir un logement ou peut-elle retourner chez sa famille qui habite à 600 km? Y a-t-il une méthode pour calculer le montant de la pension? Non, donc je pense que c'est tout ce que voulait savoir la personne. Allahu a'lam. Non, donc c'est la fin de la question, cher. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De toute façon. Entendre des choses pareilles, il faut dire que ça fait mal au cœur. Entendre des choses pareilles, il faut dire que ça fait mal au cœur. Moi, si j'étais une femme, yani, et je trouverais un mari qui va me dire, reste à la maison, et c'est moi qui me débrouille dehors, ça veut dire que c'est la plus grande ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala veut m'offrir. L'une des plus grandes ni'ma qu'Allah Ta'ala donne à la femme, c'est si elle reste à la maison, elle est là avec ses enfants, dans sa maison, elle n'a aucun problème dehors, ni elle pense à dehors, sans parler des mashakil qu'il y a dehors, sans parler des problèmes qu'il y a dehors. Maintenant, celle-là, elle veut travailler, et bien sûr, au milieu des hommes, et la nuit, et dans l'hôpital, c'est-à-dire la chose la plus grave, la plus détestable. de travailler la nuit, l'âme, et la Bouddha, obligée avec les hommes. Elle ne peut pas toute seule, l'hôpital de femmes, il n'y a pas. Il faut qu'elle soit avec les hommes de garde. De garde, et on l'appelle, et elle doit venir parler, elle doit venir discuter, elle doit venir yani, plaisanter, elle doit. Même si les premiers temps, elle va se faire ceci, cela, mais elle va tomber dans se réunir avec les hommes pour parler, pour discuter, pour ceci, pour cela, même parler des malades, parler de ceci, de cela. Donc je trouve que son mari a tout à fait raison de l'empêcher. Je n'ai pas besoin de m'enrichir. En haram, en haram. Je préfère, yani, juste un peu de halal, Allah Ta'ala va le bénir et le multiplier. Et avec un peu de halal, tu vas acheter beaucoup de choses. Et avec beaucoup de choses de haram, tu ne vas acheter que peu de choses. Tu vas dire, subhanallah, j'avais des millions, ils se sont envolés, il n'y a rien. Je n'ai acheté que telle et telle chose. Où est parti mon argent? C'était plein de haram. Et le contraire, juste un peu d'argent, tu as acheté 10 ou 15 ou 15 ou 20 choses. Tu dis, subhanallah, j'avais juste un peu d'argent, j'ai mangé, j'ai acheté une petite robe à ma fille, j'ai ceci, mashallah, juste avec un petit d'argent. C'est Allah Ta'ala qui a fait descendre la baraka dans ton argent. Je dis à cette sœur, si elle monte en Allahu alam, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, si elle demande le khula pour une chose pareille, j'ai peur qu'elle ne rentre pas au paradis. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que n'importe quelle femme qui demande le divorce et n'a pas de raison, bien sûr, n'a pas d'excuse valable dans la charia, qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Allahu Akbar. Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à ce mari de lui faire la morale. Peut-être que, inshallah ta'ala, elle va se désister de son intention et de son projet, projet Ada, yani, si je puis dire, satanique, satanique. Non, la solution serait que, par exemple, tu fasses pour lui ouvrir quelque chose de privé, pour lui ouvrir quelque chose de privé, mais il faut dire que ce n'est pas simple, faut dire que ce n'est pas simple. Ensuite, ensuite, je dis, mais c'est seulement là, là c'est seulement mon avis. Là, je vais rentrer dans mon avis. Je dis, pour moi, la fille ou la femme qui me demande le khula, khlas, elle tombe de mes yeux. Vous comprenez, ma femme, si elle me demande le khula ou bien le divorce, ça veut dire khlas, yani, si elle peut demander ça, c'est qu'il n'y a plus rien entre nous, du moins, il n'y a rien de sa part. De sa part, elle peut se séparer de moi. Donc, elle ne ressent plus rien de mon côté. Moi, je l'aurais, j'aurais accepté le khula vite. À contre-cœur, bien sûr. Mais par fierté. Par fierté. Puisque celle-là, elle veut le khula. Et après, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrir une autre porte et qu'elle me laisse tranquille. Dame. Donc, la période, c'est seulement une fois les menstrues. C'est seulement une fois les menstrues, bi'idhnillahi ta'ala. Nam, whisper. Et qu'est-ce que. Il y avait encore une ou deux questions. Est-ce que tu te rappelles des questions musulmanes? Qu'est-ce qu'il y avait à part. Nam, il y avait la question de pension. La pension, il n'y a pas. Il n'y a pas de pension pour une femme divorcée. Il y a la pension pour le bébé quand elle est enceinte. Et pour les enfants. Et il n'y a pas de maison. En islam, la femme divorcée, elle va vivre où? Elle va vivre chez ses parents ou bien avec son nouveau mari si elle va se marier. C'est lui qui va la loger, bi'idhnillahi ta'ala. Sinon, elle va chez ses parents. Non, si l'appartement n'est pas son appartement. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala yani, les aider à trouver une solution à ce problème. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala descendre la rahma dans le cœur de cette sœur, de cette épouse, pour qu'elle revienne vers le droit chemin et qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle yani, ne dissocie pas cette union sacrée entre elle et son mari, si elle s'est mariée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlan.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ma question concerne le mariage d'une musulmane avec un non-musulman, qu'il soit athée, juif ou chrétien. On m'a toujours dit que cela était interdit. Une sœur m'a dit que dans le Coran, Allah le Très-Haut dit: « Et ne donnez pas en mariage vos filles aux mouchrikoun tant qu'ils n'auront pas la foi. » Sourate 2, verset 221. Et elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Sourate 60, verset 10. Cette sœur m'a mis un doute. Doit-on comprendre dans ces versets que le mot mouchrikoun englobe aussi les juifs et les chrétiens? Comment expliquer à cette sœur qu'Allah le Très-Haut n'ait pas précisé les juifs et les chrétiens? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Mousseline, j'ai pas compris la question. Est-ce que cette sœur, on lui a dit que c'était permis avec un kafir, ou bien le contraire? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si la sœur est là, la sœur à qui la foi passée, ou bien celle qui la foi passée avait dit que ils ont adopté quelqu'un de 3 mois. Ensuite, maintenant, il a 19 ans et quelque chose comme ça. Si elle est là, qu'elle nous apprenne qu'elle est là, bi'idhnillahi ta'ala. Et quant à toi, Muslim, inshallah, relis la question. Tfadla.
Non, en fait, cher, la question, c'est que la sœur a toujours eu la connaissance que qu'un musulman. Non, il n'y a pas de contradiction, parce qu'elle dit ma question concerne le mariage d'une musulmane avec un non-musulman, qu'il soit athée, juif ou chrétien. On m'a toujours dit que cela était interdit. Une sœur m'a dit que dans le Coran, Allah, le Très-Haut, dit: Et ne donnez pas en mariage vos filles aux mouchrikoun tant qu'ils n'auront pas la foi. Sourate 2, verset 221. Et l'autre verset: elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Sourate 60, verset 10. Cette sœur m'a mis un doute. Doit-on comprendre dans ces versets que le mot mouchrikoun englobe aussi les juifs et les chrétiens? Comment expliquer à cette sœur qu'Allah le Très-Haut n'ait pas précisé les juifs et les chrétiens? Barakallahu fikoum. En fait, sa question, c'est de savoir est-ce que les juifs et les chrétiens sont des mouchrikoun. Tfadal cher. C'est juste ça, en fait, la question.
Moi, ce que je sais, normalement, regardez comment elle a commencé. Elle a dit: j'ai toujours su que une musulmane ne se marie pas avec un non-musulman. Ensuite, elle a dit: mais quelqu'un ou une femme m'a mis des doutes. Normalement, si elle lui a mis des doutes, ça veut dire qu'elle lui a fait comprendre que c'était permis et non que c'était interdit. Puisqu'elle, elle reconnaît, elle dit: j'ai toujours su que c'était interdit. Donc, celle-là. Si elle lui a mis des doutes, ça veut dire qu'elle lui a dit: non, c'est permis de se marier avec un chrétien et un juif. C'est pas permis avec un mouchrik, un bouddhiste. Comme ça, elle a dû lui dire. Ou alors, elle a fortifié. Elle lui a dit: non, c'est pas permis. Et elle lui a cité le verset. Mais moi, je dis, beaucoup de gens font la faute en lisant le Coran, quand ils ne le lisent pas en arabe, et ensuite je ne sais pas qui va leur traduire, yani, d'une façon peut-être fausse. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la règle, il faudrait bien apprendre cette règle pour ne pas se tromper. C'est que à chaque fois que vous trouvez dans le Coran mouchrik, ou bien mouchrika, associateur, ou bien associatrice, ou bien mouchrikoun, ou bien mouchriket, associatrice au pluriel, toujours, 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 il n'est pas en train de parler des juifs et des chrétiens. C'est une règle, il faut bien l'apprendre. À chaque fois que tu lis un verset, où Allah Ta'ala dit mouchrik ou mouchrika, ou mouchriket, il n'est pas en train de parler des juifs et des chrétiens. Il est en train de parler des adorateurs des statues et autres. Des Quraysh. Quraysh, ils adoraient les statues et les arbres. Mais, quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, veut parler des juifs et des chrétiens, il dit les gens du livre. Comme ça, il dit. Il ne dit pas les mouchrikoun. Des fois, il dit que les gens du livre sont des mouchrikines, font du shirk. Mais ce ne sont pas les mouchrikoun. Les mouchrikoun, c'est qui dans le Coran? C'est les autres. C'est les Arabes. Les Arabes de Quraysh. Très simple pour que vous compreniez. J'aurais aimé, Mousseline, si tu peux, si tu as la traduction en arabe, moi je te donne le verset en arabe, toi donne-le-moi en français, si tu peux. Regarde ce verset, demande à épouser un juif ou chrétien, puisque le mot mouchikoun ne les inclut pas. Donc une femme musulmane peut épouser un juif. Le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, une seconde, là. Je donne ce verset en arabe. Sourate al-Bayyinah, sourate al-Bayyinah. Regardez, une seconde, là, je donne le verset ici en arabe. Une seconde. Coran. Bon, c'est pas ici, une seconde. Voilà. Chauffe, donne-moi le verset de sourate al-Bayyinah, musulman. Sourate al-Bayyinah. La dernière sourate parmi les dernières. Une seconde. Regarde, ce verset. Trouve-moi ce verset. Je vais le donner en arabe, inshallah ta'ala. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu, subhanallah. Bayina, naam. Premier verset. Premier verset. De sorte, el bayina. Je le donne en arabe. Contrôle C. Regardez ce verset. Regardez. Les infidèles parmi les gens du livre. Ainsi qu'il a dit ici. Les gens du livre ainsi que les associateurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens du livre, ce ne sont pas des associateurs. Ce sont des associateurs. Ils font de l'association. Mais les associateurs, dans le Coran, ce ne sont pas eux. Ce sont des autres. C'est pour ça qu'il a dit, il y a les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les infidèles des autres, c'est qui? Les associateurs. Donc, les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs, et les associateurs, c'est les arabes et les autres. Regardez le deuxième verset, une seconde. Deuxième verset, une seconde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم من خير من خير. C'est dans sourate Al-Baqarah. Je vais vous dire quelle page le verset. Attendez. ما يود. Voilà. يود الذين من أهل الكتاب. Donc, Al-Baqarah, verset 105. Al-Baqarah, verset 105. Cherche musulman ce verset en arabe. Contrôle C. Cherche le verset 105 de sourate Al-Baqarah. Naam. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Ni qui? Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs. Donc, les gens du livre. C'est une catégorie et les associateurs sont une autre catégorie. Il faudrait bien faire cette différence. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en islam, c'est permis aux musulmans de se marier avec les gens du livre, même s'ils font de l'association. Mais il n'est pas permis de se marier avec une associatrice, c'est-à-dire avec une bouddhiste, une. Celle qui adore les temples, celle qui adore, c'est pas permis. C'est permis seulement avec une juive ou bien une chrétienne. Si quelqu'un va dire, Allah Ta'ala a interdit aux musulmans de se marier avec, Allah Ta'ala a interdit aux musulmans de se marier avec une associatrice. Comment il va se marier avec la chrétienne? Elle dit que Jésus c'est Dieu, etc. On lui dit non. La chrétienne fait de l'association. Non, mais dans le Coran, elle n'est pas appelée associatrice. Elle est appelée gens du livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux gens du livre, yani aux musulmans de se marier avec les femmes des gens du livre, dont yani, akhir, parmi les derniers versets qui sont descendus dans le Coran, sorte yani, Ma'ida. Quant à la femme, en islam, non, il ne lui est permis de se marier ni avec un associateur, ni avec quelqu'un des gens du livre, ni avec un associateur, ni avec quelqu'un des gens du livre. Pourquoi? Vous savez, je l'ai expliqué plusieurs fois. Quand elle se marie avec quelqu'un, un bouddhiste ou là, c'est clair. Pourquoi? Parce que il n'a ni religion ni rien. Et les enfants, donc, ils vont suivre leur père. Les enfants, par pression, par ceci, il va les éduquer, non, d'après son éducation à lui. Quant aux gens du livre, elle aussi, elle ne peut pas se marier avec des gens du livre. Pourquoi? Parce que les gens du livre, c'est-à-dire le juif ou bien le chrétien, quand elle lui cite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas en lui. Il lui dit, celui-là, maximum, c'est un prophète, mais des Arabes. Pas de nous, qui nous laisse tomber et peut-être qu'il l'insulte. Alors que elle, quand lui, il lui cite Jésus, elle lui dit que la paix soit sur lui. Nous, on croit en tous les messagers. Et vous, vous croyez seulement en vos messagers, pas en nôtres. C'est pour ça que nous, yani, les femmes musulmanes, on ne peut pas se marier avec vous. Mais les hommes peuvent se marier avec les femmes. Car le musulman, alhamdoulilah, il croit en Jésus quand il est marié avec une chrétienne. Si elle lui dit Jésus a dit, il lui a dit Jésus, moi je l'aime plus que toi, et je le connais mieux que toi, et je le respecte mieux que toi. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un parmi les cinq meilleurs messagers. Il est vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Il est au deuxième ciel avec Jean, Yahya. Il va descendre à la fin du monde pour mourir, et il va d'abord combattre ici la Trinité et la croix et les choses là, le shirk, l'associationnisme. Ensuite, il va être enterré ici, sur terre. Il va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pas le contraire. Yani, lui, quand il lui cite Mohammed, peut-être qu'il ne croit pas en lui. Al-Muhim. Tfadla, Inch'Allah, pour une autre question.
Naam, cher, par contre, je vous ai répondu sur le salon. Je ne sais pas si vous aviez vu. La sœur. Et l'enfant adopté est présente. Tfadal, cher.
La fois passée, je parlais, ou là on m'avait posé une question sur une sœur qui, yani, apparemment ses parents ont adopté quelqu'un de 3 mois, et maintenant, yani, il a grandi, il a 19 ans, etc. Ils disent que, je crois, j'ai oublié, hein, je crois qu'ils ont dit qu'ils lui ont donné le nom de leur famille ou quelque chose comme ça. Al-Muhim. Ensuite, moi j'avais dit que la plupart des ulama interdisent cela, qu'il y avait seulement 4 ou 5 savants qui ont permis cela, mais je ne sais pas si le fait de permettre de prendre le nom, que yani, ça permettait aussi que ce garçon devienne un mahram. Ensuite, quand j'ai raccroché, etc., et j'étais seul, je me suis rappelé que moi, quand je parlais d'autre chose. Je parlais d'autre chose en fait. Naam. Ce que je disais, que tous les savants ne sont pas d'accord, et il y a 4 ou 5 seulement qui sont d'accord, en fait, je ne parlais pas de ça. Je parlais que quand quelqu'un fait la fornication avec une femme, est-ce qu'il peut donner, son nom au bébé à son fils biologique, car son fils vient de lui, mais ce n'est pas charaï. Est-ce qu'il peut lui donner son nom? La plupart des savants ont dit non. Et les 4 que j'ai cités, Ishaq ibn Rahawi, Abu Hanifa, Sheikh Islam ibn Al-Qayyim, Sheikh ibn Uthaymin, ceux-là seulement ont dit, il peut lui donner son nom dans certains cas. Il a dit, Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit, je ne peux pas dire comme ça. Yani, devant tout le monde dans une mosquée, naam, il peut lui donner son nom. Il a dit, si quelqu'un m'interroge entre moi et lui, je saurais comment lui répondre. C'est pour ça que moi, je réponds pas comme ça en internet. Naam, si tu fais la zina, ba'alish, donne-lui ton nom. Naam, tu as fait la zina, khlas, fais le repentir, donne-lui ton nom. Non. La plupart des savants ont dit non. Ceux qui ont dit oui, c'est dans des cas restreints. Des cas restreints. Et moi, donc, ça n'a rien à voir avec le cas de la sœur, car le cas de la sœur, cet enfant-là, Yani, c'est pas son père qui veut lui donner son nom. Mais c'est une famille étrangère. Une famille étrangère, c'est cette sœur ou bien la famille de cette sœur. Donc, ils n'ont aucune relation avec ce bébé-là. C'est pour cela qu'il leur est interdit qu'il lui donne à ce bébé le nom. C'est interdit qu'il lui donne le nom. Ce qui est, yani, où il y a des divergences, etc. Si c'est son père biologique, il a fait la zina avec une femme, il a eu ce bébé. C'est celui-là où il y a la grande divergence. Quand tu as yani, quelqu'un de la rue comme ça, qu'on ne connaît pas pour lui donner le nom, ce n'est pas possible unanimement. Unanimement en islam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle voit comment lui faire comprendre, yani, comme ça, gentiment, doucement, avec sagesse, pour que il soit obligé d'accepter, yani, les lois de l'islam, les décrets de l'islam. Non, c'est pas nous qui avons, yani, fait ces lois-là. Elles viennent d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand on l'adore en tout ce qu'il a ordonné et en tout ce qu'il a interdit, et on fait notre maximum de يعني لا دوري بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل
Ah bon, donc attendez, cher, puisqu'elle me dit, le cher ne répond pas exactement à ma question. Donc j'attends qu'elle me dise pour quelle raison, Inch'Allah. Ah, pour quelle raison le cher ne répond pas à la question? Je vous demande, Inch'Allah, l'interview me dévoiler et d'être ça. Non, donc c'est ce que a voulu dire le cher. Donc il vous est interdit de vous dévoiler, d'être seul avec lui. Ce qu'il vient de vous dire, c'est qu'il n'est pas votre frère. Et qu'il garde le même statut que n'importe quel étranger. Vis-à-vis de vous, c'est un étranger. Cher, je vous laisse le micro si vous voulez lui préciser exactement. Apparemment, ce n'est pas. Voilà, Naam, c'est un étranger. Il est considéré comme un étranger. Ok, Barakallahu fikoum. Naam, donc, du Barakallahu fikoum, c'est clair, Inch'Allah. Donc, question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah Ta'ala vous fasse miséricorde à vous et aux admins. Amin. J'aimerais savoir, j'ai lu un livre qui s'intitule Le mariage et ses rapports intimes. Qurat el-Uyun. D'un certain auteur, Knoun el-Idrisi el-Hasni, Bou Mohammed, Mohamma, Allah, je ne sais pas si c'est bien écrit, qui fait le commentaire. Du poème d'Ibn Yamoun. Connaissez-vous cet auteur ou ce poème? À un moment dans ce livre, il dit qu'il faut que l'époux lave les pieds et mains de son épouse dans un bassin et qu'il éparpille cette eau dans tout l'appartement. Est-il vrai? Allah yajazakum bi khair, cher. Tfadal, cher.
Allah yahdi celui-là. Celui qui a dit ça, Allah yahdi. Imagine, il va laver ses pieds, il va prendre l'eau, il va arroser toute la maison. Allah yahdi. Il va passer au salon, il va jeter de l'eau, il va à la cuisine, il va à la chambre de nuit. Il va. Allah yahdi. Donc celui-là, il invente. Il dit des choses qui n'ont rien à voir avec la charia. Il dit des bêtises, il dit des sottises, il dit des bidas. Il dit des bidas. Non. C'est ça, chauffe, c'est ça, comme disent les savants, que Allah subhanahu wa azawajal te donne la faveur de tomber dans quelqu'un ou le sur quelqu'un qui te montre quel est le chemin à prendre et, en disant chemin, quels sont aussi les livres à lire et les livres à ne pas lire aussi. Car si tu tombes sur quelqu'un de pareil, il va te raccourcir ton chemin. Celui qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire un livre comme celui que la sœur a cité maintenant. Donc il va se remplir de choses fausses. Il va remplir son cœur de choses fausses. Et il va lire d'autres livres qui sont pleins de fautes dans la Aqidah. Et il va lire le livre de Al-Ghazali, par exemple, Ihya Ulumuddin, dans lequel il dit, par exemple, Rahimahullah, il dit que, par exemple, c'est bien de jeûner des fois 40 jours consécutifs. 40 jours consécutifs. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au maximum, tu jeûnes jusqu'au quoi? Jusqu'à combien? Jusqu'à Sohr. C'est-à-dire du matin du Fajr jusqu'à maximum, disons, 3 heures du matin, 4 heures du matin, maximum Sohr. Alors celui-là, il dit, tu peux jeûner jusqu'à 40 jours. Sans parler des graves erreurs qu'il y a dans la Aqida dans ce livre. Au point où Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il a parlé de Ihya Ulumuddin de Al-Ghazali, pas Al-Ghazali, celui qui est mort, ça fait quelques années. Al-Ghazali, l'ancien, le premier, Al-Muhim. Ibn Taymiyyah a dit de lui, il a dit comme ça, il a dit, Al-Ghazali a inscrit des choses dans son livre que les juifs et les chrétiens ne disent pas. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a des passages que ce qu'il y a dans la Bible et la Torah, c'est mieux. C'est mieux que certains passages qu'il y a quoi dans Ihya Ulumuddin. C'est très grave, naam. Donc quelqu'un qui ne sait pas, il va lire aussi ce livre. Et il va se remplir de choubouhet, surtout dans la Aqidah et dans l'Ouswas. C'est pour cela que Al-Ghazali rahimahullah lui-même, il a vécu presque toute sa vie dans l'égarement. Au point où il a écrit un livre qui s'appelle Al-Munqid min al-Dalala, sauveur de l'égarement. Car à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. L'a aidé, il a fait la tawba, il est rentré dans le minhaj. Mais il est resté des années, yani, aéré de gauche à droite, sans savoir où poser les pieds. Et alhamdoulilah, comme disent les savants, il est mort. Quand on est rentré dans la chambre où il était mort, on l'a trouvé avec Sahih al-Bukhari sur sa poitrine. Sahih al-Bukhari sur sa poitrine. C'est vers la fin de sa vie qu'il a compris qu'il n'y a pas comme yani, les hadiths authentiques. Tu veux comprendre ton dîn, c'est les hadiths authentiques. Ce n'est pas ce que disent X et Y et ils inventent n'importe quoi. Et ensuite, celui qui remplit son cœur de choses qui sont fausses, il est plus difficile à ce qu'on lui fasse le rappel que quelqu'un qui est vide. Imaginez un reconverti quand il rentre dans le dîn, dans l'islam, il est vide. Tout ce que tu lui dis, il va l'accepter. Pourquoi? Son cœur est vide. Il vient de rebooter. Hein? L'ordinateur, quand il bloque, on le reboot. Il redémarre à zéro. Il efface tout, il redémarre. Le reconverti, il a effacé tout du passé. Tout du christianisme, par exemple. Et il dit, je commence à zéro. C'est l'islam. Celui-là, il est facile. Ça? Mais va parler, toi, à quelqu'un qui a déjà des choses fausses. On lui a appris plein de choses fausses. Maintenant, c'est difficile pour lui faire sortir le faux et le remplacer par le vrai. Ce qu'on appelle, comme j'ai dit la fois passée, jahil basit ou jahil murakkab. On dit celui-là, il a une ignorance simple et celui-là, il a une ignorance complexe. Et celui qui est ignorant d'une ignorance complexe, il est difficile. Pourquoi? Car il fait deux fautes. Premièrement, il ne sait pas. Et deuxièmement, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il croit qu'il sait. Non, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il croit qu'il sait. Tandis que le premier, ignorant simple, non, il ne sait pas. Tu lui dis, c'est combien les piliers de l'islam? Il te dit, Allahu alam. Tu lui dis, 5. Il te dit, Barakallahu fik. Tu lui dis, c'est combien, par exemple, tu lui dis, un seul mois. Tu lui dis, Barakallahu fik. Et comme ça. Ignorant simple. Mais ignorant complexe, non. Tu lui dis par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Il te dit non. Comment il descend? S'il descend, donc on l'a fait ressembler aux créatures. Non, il descend pas. Ah, subhanallah, donc celui-là, c'est un ignorant complexe. Il sait pas et il croit qu'il sait. Il ne sait pas qu'il sait pas. Il est difficile. Donc, je dis, je reviens, je dis, alhamdoulilah, que, en demandant subhanallah, de nous aider, qu'on apprenne directement le vrai, sans passer, yani, par se remplir le cœur de choses fausses, et ensuite, avoir des difficultés pour les vomir. Avoir des difficultés pour les vomir. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente davantage en science, chère. Une femme est mariée à un homme qui ne semble pas être du minhaj, bien qu'il dise le contraire. Il commet quelques innovations, il délaisse certaines sunnah importantes en s'obstinant à dire à sa femme qu'il connaît mieux la religion qu'elle. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient plus à rester calme et s'énerve facilement après lui, ce qui l'amène donc à faire des péchés. Doit-elle patienter de peur de voir sa foi diminuer en restant dans l'obéissance de son mari, ou est-ce une raison suffisante pour pouvoir se séparer de lui? L'Almustan,
Non, ce n'est pas une raison suffisante pour pouvoir se séparer de lui. Non. Car lui aussi, s'il t'avait vu dans l'erreur, etc., il devrait patienter avec toi pour que demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il ait la conscience tranquille. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai pas pu. Toi aussi donc, c'est ton conjoint, c'est ton second, donc tu devrais, inshallah ta'ala, faire des efforts et patienter avec lui. Tant que quoi? Tant que yani, il ne t'empêche pas. Est-ce que lui, il t'a dit non, j'accepte plus que tu lises, par exemple, les livres des grands savants. J'accepte plus que tu suives ce minhaj dont tu es en train de me parler. J'accepte plus que tu entendes un cours de X ou Y des grands savants et d'autres. Donc, c'est pour ça que je dis, je redis, et je donne nasiha à plusieurs épouses. Qui disent que moi, mon mari, il n'est pas à 100%, il n'est pas un. Alhamdoulillah. L'essentiel, toi, il t'a laissé. Est-ce qu'il est contre toi? Est-ce qu'il t'a dit n'apprends pas ta religion? Est-ce qu'il t'a dit n'avance pas? Tu veux que tous en avancent. Tu veux que tous en soient des savants. Ce n'est pas une obligation. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, non, toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a donné cette faveur et il t'a aimé plus que ton mari. Et il t'a guidé plus que lui. Demande à Allah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et demande dans tes soujouds à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne comme il t'a donné à toi, ou qu'il lui donne plus qu'il n'en t'a donné. Mais ce n'est pas une obligation, yani, pour que on soit tous, yani, le couple, tout le couple soit à 100% dans le minhaj, sinon on divorce. Non, ça c'est quand je suis un mubtadi'. Qui n'arrête pas d'insulter les salafs, qui n'arrête pas de se moquer de salafs, de se moquer de la barbe, de se moquer de ceci, même des savants, de dire les chiens, ceci, cela. Là, d'accord. Mais quelqu'un qui, miskine, il n'a pas pu arriver. Il me laisse apprendre. Oui, alhamdoulilah, il me laisse apprendre. Il ne m'a pas dit, il faut pas apprendre. Arrête. Donc, je dis, elle doit, inchallah ta'ala, patienter et faire des doigts, puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider son mari comme elle, il l'a aidé. Naam, tfadlal.
Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakumullah. C'est un honneur de vous écouter, cher. Inni uhibbukum fillah. Ma question est au sujet de ma femme. Lorsqu'on s'apprête à aller dormir, on fait les doigts avant le sommeil. Dans la nuit, il y a des moments où c'est comme si quelqu'un ou essayait de l'étouffer. Cela lui fait mal, comme si elle était paralysée par quelque chose. Pourriez-vous nous éclairer, bi'innillah, et est-ce dû au djinn ou autre? Barakallahu fekoum, cher. Même cher, à chaque fois que je lis une question pareille, ça me fait à chaque fois penser à votre tante. Et vous savez pourquoi, Tradal cher.
Non, je vous ai dit une fois que beaucoup de nous et d'entre nous ont du sihr, ont des djinns et ont du mauvais œil. Mauvais œil, c'est sûr. Mais même le djinn, beaucoup d'entre nous l'ont. Mais ce n'est pas tout le temps, yani, qui se manifeste. C'est pour cela que des fois la nuit, quand on dort, donc quand tu dors, il n'y a plus de dhikr et akhlas, tu t'es endormi. Ça, tu n'as pas l'esprit avec toi pour dire Audoublem, pour dire être cool. C'est trop tard, tu t'es endormi. Alors lui, le shaitan profite. Des fois il vient, des fois il ramène le sihr. Et dans le rêve, dans le songe, il veut te faire manger. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pas une fois, pas deux. Pas une fois, pas deux. Dans le rêve, je suis en train de dormir. Je sens seulement comme une cuillère ou quelque chose, une bouchée qui est arrivée à ma bouche. Et que mes lèvres, c'est-à-dire, ont déjà, il y a un pris la chose et je commence à cracher. Je dis, c'est comme si j'avais réellement mangé quelque chose. Mais je me rappelle vite pour que je ne l'avale pas. Et je commence à cracher à ma gauche. Plusieurs fois, pas une fois, pas deux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un djinn qui a été envoyé par un sorcier ou une sorcière, naam, pour te faire manger quelque chose. Profitant de quoi? De ton sommeil. Te dit, bonne nuit mon fils, bonne nuit, fais dodo, bonne nuit, je t'ai ramené un cadeau, du chocolat. C'est Noël, joyeux Noël. Mohim. Voilà, et tu te réveilles avec un cerf. Tu te réveilles avec un cerf qui va rester peut-être des années pour sortir. Qui va rester peut-être des années pour sortir. Et des fois, le djinn ne ramène pas de cerf. Ne ramène pas de cerf. Lui, par exemple, il est tenté par la personne. Peut-être c'est une femme, elle est belle, elle est jeune, elle est ceci. Il veut, yani, l'habiter. Il veut la posséder. Elle commence à sentir la chair de poule. Elle sent, c'est comme si, yani, il voulait rentrer en elle. Non. Donc elle voudrait, yani, ça arrive aussi, ça nous arrive à nous tous. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive ou seulement moi. Mais moi, de temps en temps, je sens cette chose. Je sens que une présence est avec moi, une présence étrangère, et je comme la chair de poule. C'est comme si quelqu'un voudrait quoi? Voudrait se coller à moi ou rentrer en moi. Ou rentrer en moi. Et là, la personne doit y aller faire les doigts, etc., pour éloigner ce shaitan qui, pendant la journée, ne peut rien te faire, car tu es toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es toujours avec Coran, tu es toujours avec Astaghfirullah, tu es toujours avec le dhikr, tu es toujours avec Allah a dit, son prophète a dit, donc il est loin. Donc il te guette la nuit, quand quoi? Quand tu dors. Je me souviens une fois, où la khaliya, c'est pas la peine de raconter, tfadlal.
Tfadal, cher, on vous écoute, Inch'Allah. Et rappelez-nous l'histoire avec votre tante, cher. Tfadal, cher.
Il dit ici, cher, ça peut tuer dans le rêve? Je dis oui. Ça peut étrangler dans le rêve. Ça peut tuer dans le rêve si la personne n'arrive pas à se débarrasser de lui. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala protection, en criant Allahu Akbar, et comme ça, il peut même l'étrangler. Et si vous lisez un livre qui s'appelle Minhajul Muslim, très connu, de Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, très connu aussi, qui vit jusqu'à de nos jours en Arabie Saoudite. Dans ce livre, il a écrit que il y avait des djinns qui ont fait beaucoup de problèmes à une de sa sœur, la sœur du savant, et que une de ses sœurs a été étranglée par un djinn et elle est morte. Vous le trouvez dans le livre, s'il l'a pas enlevé. Moi, j'ai lu ça fait à peu près 30 ans, dans son livre Minhajul Muslim. Je ne sais pas maintenant s'il l'a enlevé, ce passage ou pas. Mais il a dit qu'il y a un djinn qui a étranglé une de mes sœurs qui est morte étranglée par un djinn. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. Une fois, j'étais en train de marcher dans une forêt. J'étais en train de marcher dans une forêt. Muslim. Alhamdoulillah. Je vous raconte des choses personnelles comme ça, c'est pas parce que j'aime parler de moi. C'est juste parce que j'aime vous donner mon expérience. Vous comprenez? J'aime, yani, si jamais ça vous arrive une chose, que vous sachiez alors que, Yani vous connaissez déjà cette chose et que vous avez déjà entendu quelqu'un, par exemple, vous parler d'une chose similaire et comme ça. J'étais jeune et je n'étais pas encore dans le din. C'est-à-dire que j'avais 18 ans ou quelque chose comme ça. Et je revenais d'un camping. Un camping. J'étais en camping et je revenais à pied. À pied. Et on était deux ou trois. Deux. Maintenant, je me rappelle, on était deux. C'est-à-dire, on s'est séparés, on est restés deux. On devait traverser une forêt pour sortir vers la grande route. Quand on sort, on arrive à la grande route, on prend le bus pour rentrer chez nous. Donc, on a ce qu'on appelle, on a décampé. Là, on va rentrer chez nous. Donc, pour arriver vers la route où on doit prendre le bus, fallait traverser une forêt. Il était presque le coucher du soleil. C'était peut-être 19h, peut-être 18h30, ou là 20h moins quelque chose. Le coucher du soleil, il restait seulement quelques minutes. Et je marchais devant et l'autre était derrière moi. Il y avait à peu près peut-être 5 mètres seul. Je marchais seul, lui il marchait seul. Quand soudain, j'ai commencé à sentir, yani, c'est comme si j'entendais des pas, j'entendais des gens venir. Et quand on marchait dans la forêt, bien sûr, s'il y avait une mouche qui passe, on peut l'entendre, une mouche qui passe. C'est vraiment, 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 yani, calme, calme et silence. Coucher du soleil, on n'entend rien, seulement moi je marche, lui il marche. J'ai commencé à entendre comme yani, s'il y avait des soldats qui arrivaient ou quelque chose comme ça. Subhanallah. Ensuite, les pas se rapprochaient de plus en plus et je sentais une présence. Une présence, yani, c'est comme si un corps ou quelque chose comme ça qui se rapprochait de plus en plus vers moi. Se rapprocher, senti. Yani, c'est comme si par exemple quelqu'un t'a enlacé et t'a relâché vite. On a continué le chemin. Moi, j'ai rien dit à mon ami, on a continué le chemin. Ensuite, je me suis dit, c'est chétan, c'est rien, c'est peut-être j'ai eu mal à la poitrine, peut-être je sais pas, on comprend rien. Quand on est arrivé, à l'autoroute, ou la grande route où on devait prendre le bus, on a attendu un peu, il n'y avait rien, donc on a dit on va dormir ici. On a choisi un arbre, un olivier, je me rappelle. Un olivier, on a dit on va arriver, on prend le bus. On s'est endormi. Ensuite, c'était la première fois dans ma vie que ça m'arrivait. Vers 2 heures du matin, je vois dans le songe, mais je vois, quand je dis dans le songe, mais en même temps, c'est comme si c'était yani, devant moi, réel, comme on dit un songe véridique, devant moi, comme ça, je vois plutôt, je vois un grand serpent, comme un cobra, qui descendait comme ça de l'arbre sous lequel je dormais, l'olivier, et qui venait vers moi pour me mordre. Et bien sûr, j'ai crié d'un cri, qui en même temps m'a réveillé, a réveillé la personne qui était avec moi. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, serpent, El Mouhim. C'est des années après, que j'ai compris que ce jour-là, j'ai dû être possédé par un djinn dans cette forêt-là. La preuve, le djinn, vous savez, il vient souvent, souvent, la plupart du temps, sous forme de serpent. Et la preuve, il s'est manifesté ce soir-là. Ce soir-là, le premier jour, il s'est manifesté quand je me suis endormi. Donc, ce djinn-là, ou là, ce serpent-là, il est resté des années chez moi, ou alors, je sais pas où il est, mais il vient de me rendre visite, des années, même après la Touba. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques années, quand j'étais au Koweït, je suis venu, j'étais invité chez mes oncles, chez mon oncle. Et à 2 heures du matin ou là, il est venu et je me suis réveillé, j'ai crié. J'ai crié. Subhanallah. Donc des fois, il m'oublie, je l'oublie des années. 2, 3, 4, 5 ans, il ne vient pas. Et des fois, subhanallah, quand c'est moi qui faiblis, ou bien c'est moi qui oublie, ou c'est moi qui fais des. Alors il vient. Subhanallah, il vient. Donc, a'oudou billah. Non. Muslim, tu veux que je te l'envoie? Tu veux que je te l'envoie, il vient quelques jours chez toi? Non, il cherche quelqu'un, il cherche. Non, je lui dis la France c'est bien, non, là-bas il y a tout, il y a la liberté, etc. Il va venir faire un tour chez toi. T'en veux pas? Donc je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Pourquoi on parlait de ça? Muslim, pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi on a parlé de ça? Puisque là, subhanahu wa ta'ala, vous préservez tous et toutes. Non, mais je voulais dire que si on allait chercher au fond de nous-mêmes, tous on va trouver qu'on a des choses. On va trouver qu'on a des choses. Mais plus tu tiens au Coran et la Sunna, plus la chose que tu as, yani, est faible, devient faible et ne peut pas te faire de mal. Ne peut pas te faire de mal. Et plus tu t'oublies, tu es distrait, etc., plus la chose commence à se manifester. Fadlan, Inch'Allah, pour une autre question.
Question suivante. On avait parlé de ça, cher, par rapport à la question précédente vis-à-vis du sommeil. Donc, question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on dire, avant de faire une doua, Alhamdulillah, et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où doit-on débuter? Seulement par les doigts pendant la prosternation, barakallahu fikoum. Peut-on dire avant de faire des doigts, alhamdoulillah, et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou doit-on débuter seulement par les doigts pendant la prosternation, barakallahu fikoum? Tfadal, cher.
Non, les deux c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Les deux c'est permis. Des fois, par exemple, je donne un exemple. Tu peux, dans une prosternation, tu peux la laisser uniquement, par exemple, pour faire les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, j'ai pas oublié combien vous m'avez aidé dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose, la santé que vous m'avez donnée, les enfants, la voiture, ceci, cela, alhamdoulilah, 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 alhamdoulilah. Vous avez compris? On peut faire seulement une prosternation, seulement pour remercier Allah Ta'ala, et c'est pas suffisant. Si on restait des heures, c'est pas suffisant. Ensuite, dans la deuxième, tu peux y aller, faire la même chose, dire alhamdoulilah, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète alayhi salam et de faire des doigts aussi. Et de faire des doigts aussi. Naam, tfadhal. Mais si on veut directement sans faire cela, c'est aussi possible. C'est aussi possible, même si ce n'est pas yani, la meilleure des choses. Tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, ma question est sur la zakat des bijoux. J'ai des bijoux, environ 150 grammes, que j'avais mis en gage à la banque pour aider mon ex-mari. Ils allaient me les vendre, du coup, j'ai fait un crédit pour les récupérer. Donc chaque mois, je paye un crédit sur ces bijoux. Dois-je quand même donner la zakat sur ces bijoux? Barakallahu fikoum, cher, de prendre du temps pour nous apprendre qu'Allah vous récompense. Et vous protège vous et votre famille. Fadal cher.
Une personne, non. Tant que elle a ce qu'on appelle le seuil, et ici, comme vous savez, c'est 85 grammes d'or, ou bien en argent, 595 grammes d'argent. Toute personne qui a 595 grammes d'argent et plus, ou bien 85 grammes d'or et plus, elle doit faire la zakat chaque année une fois jusqu'à ce que l'or ou bien l'argent, le métal, descende au-dessous du seuil. Descende au-dessous du seuil. Naam. Tfadhal.
Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum. Cher, j'entends certains frères être contre le mariage entre deux personnes d'une origine différente. Est-ce que cette pratique est déconseillée? Est-ce que le fait d'épouser une femme de la même origine que soi est préférable? Jazakumullah khairan. Tfadal, cher.
Pas spécialement. Pas spécialement. L'essentiel, c'est quoi? C'est s'ils ont les mêmes idéaux. Idéaux, ça veut dire on vit pour les mêmes buts. On a les mêmes buts et on se base aussi sur les mêmes, disons, sur les mêmes. On a les mêmes supports. Comme ici, par exemple, les deux, c'est la Coran et la Sunna d'après les selfs. Donc on va s'entendre. Même si toi tu es de France et elle est du Niger ou elle est des États-Unis, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les deux vous pensez la même chose. Les deux vous pensez de la même façon. Vous pensez de la même façon. Donc c'est ça la base. C'est ça la base. Reste que, des fois dans certains pays, il y a des choses qu'on appelle les coutumes et les us, US. Et ces coutumes-là ne sont pas interdites par la loi. Il y a des coutumes dans certaines sociétés. Or, il se peut que l'un des deux conjoints n'arrive pas à s'adapter avec les coutumes de l'autre. Et dans ce cas, ça risque de lui poser des problèmes. C'est pour cela que, donc, s'il se marie avec un partenaire qui est de sa propre société, il évite, Inch'Allah Ta'ala, ce quoi? Cette entrave. Il évite que cette chose ne lui fasse ce problème. Voilà seulement la différence. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez compris. Tfadval.
Question suivante. Salam alaikum. Ma question d'un frère. Salam alaikum. Allah vous préserve. Est-ce que si j'affirme que la Terre tourne autour du Soleil et que malgré cela, j'affirme que le Soleil a une orbite dans l'univers, je reste musulman? Je dis ça par rapport à une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et car j'ai craint de tomber dans la mécréance. Barakallahu fikum, Cheikh. Ainsi que les admins, ou des accomplices. Tfadal, cher.
Il y a même la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Il a la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Mais des fois, vous savez, des fois, le verset n'est pas très clair. Il n'est pas très clair. C'est pour cela que, yani, si on dit d'une chose qui est contraire au verset, mais que le verset n'est pas clair. Dans ce cas, ça ne rentre pas dans la mécréance. La mécréance, c'est quand on contredit un verset qui est clair, mais non pas un verset qui peut-être a ce sens et peut-être il a aussi ce sens. C'est un peu comme, par exemple, autrefois, certains savants ont dit que celui qui dit que quelqu'un est monté sur la lune, il est rentré dans le coffre. Il y a ça, vous savez, il y a ça. Vous pouvez lire par exemple Adwa al-Bayan de Cheikh Shanqiti rahimahullah, très connu. Il dit ça dans son livre. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut monter. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ma'ashara al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ard, fanfudhu, la tanfudhun. Illa bi sultan. Il dit personne, ni les djinns ni les ins ne peuvent monter. Donc pour lui, si tu montes, tu es sorti de l'islam. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que on dit non? Pourquoi? Parce que monter sur la lune, ce n'est pas monter chez Allah. Vous avez compris? La lune, c'est juste là, au-dessus de ta tête. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est rentrer dans le premier ciel, ensuite deuxième, troisième, septième ciel. Ça, c'est impossible. Mais on est, nous tous là, juste dans cette dunya, le ciel qui est au-dessus de notre tête. tout ce qui se passait entre la terre et le ciel qui est au-dessus de nous. Non, ça, ce n'est pas du coffre, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que je dis aussi, pour ce qu'a dit la personne ici, ça ne rentre pas dans le coffre. Non, tant que Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas un verset clair qui dit que, yani qui dit le contraire de ce qu'on dit. Ensuite, sachez une chose, pour terminer dans cette chose, sachez une chose, jamais, 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 il ne peut y avoir un verset qui contredit une chose scientifique. Une chose scientifique, soit scientifique qui a rapport à l'univers ou à la science de la médecine ou n'importe quoi. Jamais ça n'existe. Si on trouve une contradiction, on va dire qui s'est trompé. On va dire c'est la science, pas le Coran. C'est la science. Ceux qui ont dit, par exemple, que telle étoile, par exemple, Zama, telle étoile, par exemple, était rouge, ce sont eux qui se sont trompés. Car le Coran a dit que cette étoile était blanche. Donc, on va dire, ce sont eux qui se sont trompés. Ceux qui ont dit qu'elle était rouge. Et vous allez voir des années après, ils vont découvrir quoi? Ils vont dire, oui, on s'est trompé. On l'a vu la nuit. On croyait qu'elle était rouge alors qu'elle est blanche, exactement comme a dit le Coran. Naam, tfadal.
Naam, cher, ce que vous êtes en train de dire, ça me fait penser par rapport au développement de l'embryon. Avant, les scientifiques donnaient en fait sur une étape du développement de l'embryon les os qui se couvrent de muscles, l'awalem, ou alors l'inverse. Et ils ont découvert après qu'ils s'étaient trompés, qu'ils sont revenus à ce que disait le Coran, subhanallah. Alors qu'eux disaient depuis des années que c'est eux qui avaient raison. Donc, question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. J'ai des sourcils semblables à un homme. J'ai des poils qui poussent et ça me complexe beaucoup. J'ai honte d'enlever mon voile et de laisser apparaître mes sourcils devant mes proches, et je redoute ça devant l'homme avec qui je me marierai, Inch'Allah. Est-ce qu'il est permis d'épiler juste les poils qui dépassent de ma ligne de sourcil? Barakallahu fekoum, cher. Allah vous préserve et vous récompense. Tfadal, cher.
Alaykoum salam. Les savants disent, par rapport aux sourcils, que ce soit à l'homme ou alors à la femme, vous savez que c'est interdit d'épiler, même pour l'homme, bien sûr. Mais ils disent que s'il y a par exemple un poil ou deux poils, par exemple, qui descendent sur l'œil, de façon par exemple à gêner la visibilité. Non. Des fois, surtout quelqu'un quand il est âgé par exemple, ou alors que très jeune, il avait l'habitude d'épiler, ensuite il y a des poils peut-être qui vont descendre sur son œil. Donc, yani, même quand il marche, il va être gêné. À chaque fois, il doit pousser comme ça avec sa main. Il dit ce poil-là, non, c'est permis, ce poil ou ces poils, ils sont permis d'être élevés, d'être enlevés, car ce n'est pas pour la parure, mais c'est pour yani, ne pas être gêné. Ne pas être gêné. Reste maintenant quand une personne dit que, par exemple, ses sourcils sont larges, par exemple, non, et qu'elle voudrait enlever le surplus, etc., on dit, non, tant qu'il n'y a pas de gêne, c'est-à-dire pour voir, etc., non, mais que ça ne gêne pas dans la vision. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu es belle. Même si pour les gens, tu n'es pas belle. Toi, tu vis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, tu es belle, bi'idnaï ta'ala. Et pour le mari, dont tu crois, yani que ça va faire qui, ça va faire un embarras, celui-là, si vraiment il va se marier avec toi pour Allah, il ne va pas trouver que c'est un défaut. Car il sait que si tu avais voulu obéir à tes tentations et ton shaitan, tu te serais épilé et tu te serais devenu plus belle donc. Mais ce qui t'a retenu, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette chose-là, s'il est vraiment croyant, devrait le pousser à t'aimer davantage et de s'accrocher encore à toi. Car tu es une sœur qui applique et qui n'aime pas yani, mettre son Seigneur en colère d'elle. Donc, tu vois, Inch'Allah Ta'ala, c'est comme ça la réponse, Bidna Ta'ala, patiente, Allah Subhanahu wa Ta'ala te fera une solution qui te ravira bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Et cela, est-ce que vous m'entendez malgré cela? Vous m'entendez? Inch'Allah ta'ala, dans deux ou trois cours, c'est-à-dire dans 15 jours, 20 jours, je pense, Inch'Allah ta'ala, lui ramener du nouveau. Je pense, Inch'Allah ta'ala, à cette sœur, lui ramener du nouveau, car je me rappelle que Cheikh Ibn Uthaymeen a quelque chose en ce sens, sur les sourcils, et il parle d'une certaine chose. Est-ce que ça peut rentrer dans le fait de c'est yani c'est pas c'est pour réparer et non pas pour se parer, c'est réparatrice et non pas parure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver ici? Allahu alam, ça me fait rappeler à des choses. Patiente encore, inshallah ta'ala, deux ou trois cours, et inshallah ta'ala, je te donne inshallah ta'ala bi'idhnillah ta'ala quelque chose. Tfadlal.
Question suivante. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Pouvez-vous conseiller une sœur, car depuis le début de son mariage, donc cela fait plus de 6 ans, elle a beaucoup de mal à supporter le caractère de son mari et maintenant les tabous. Elle a patienté en espérant que lui change ou qu'elle ait assez de foi pour le supporter. Mais cela lui apporte beaucoup de tristesse et elle n'a plus aucun amour pour lui, au point où elle ne peut plus lui donner ses droits. Mais le mari s'est déchargé de ses droits. Mais malgré ça, la vie pour elle est devenue dure. Elle a peur. Et si elle demande le khula pour ses deux enfants, pour la hijra, Allahu anhum. Car ils seront séparés, sauf si elle les suit. Elle fait beaucoup de dua, mais elle est toujours perdue, elle ne sait pas quoi faire. Tfadal cher. Akh Mohamed, regarde ton PV. Barakallahu fik.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Si le frère, yani, n'a pas ou ne fait pas des choses qui vraiment yani le font sortir yani vers la perversité. Il ne fait pas les grands péchés, il ne fait pas ceci. Il faudrait inshallah ta'ala qu'elle patiente. Il faudrait inshallah ta'ala qu'elle patiente surtout pour ses enfants. Et surtout comme j'ai dit, s'il la laisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala librement. Parce que quand une sœur ou là un frère ou là, il est occupé à demander la science et à vouloir yani, avancer en apprenant à chaque fois des choses nouvelles, il ne va plus avoir le temps de penser à ces choses-là. Au khula, au divorce, à ceci, à cela. Non, je suis occupé avec la faveur, la saveur de la foi. Je sens quelque chose qui me fait... Je sens des délices dans mon cœur. Je sens un paradis dans mon cœur. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter un cours et d'apprendre, de connaître Allah Ta'ala. Donc, c'est surtout, quand on a le cœur vide, que on va s'asseoir et méditer. Et dire, donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci, cela. Allez, je vais faire le khola, allez, je vais me remarier, allez, ceci, allez, cela. Non. Mais si une personne, je dis par Allah subhanahu wa ta'ala, si une personne est occupée par la quête de la science, qu'elle n'a plus le temps de penser à ces choses-là. Parce que le shaitan s'éloigne d'elle. Le shaitan va fuir d'elle. Pourquoi? Elle est tout le temps avec. Allah a dit, son prophète a dit, les sahaba ont dit. Et même elle ne va plus penser à ces choses-là. Al-Muhim, regardez. Rappelez-vous la femme, qui est allée se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit, Ya Rasulallah, mon mari, quand je prie, il me bat, il me frappe. Et quand je jeûne, il me force à manger. Et en plus de cela, il ne se réveille pas pour Salat al-Subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc, fais le khula? Est-ce qu'il lui a dit, donc, divorce-le? Ah, il te bat, divorce-le. Il te fait manger, il te laisse pas faire siyam nafila. Allez, divorce-le. Mais il lui a pas dit. Ça, encore moins le khula. Pourquoi? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un jeu, le mariage. Ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que je dis à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore mariés, réfléchissez bien avant de vous marier. Ce n'est pas un jeu d'une semaine. Ce n'est pas pour assouvir ces désirs charnels que tu vas te marier. Ce n'est pas seulement pour ça. Car cette chose ne dure que 3 ou 4 jours ou une semaine. Ensuite, tu n'auras plus envie. Donc, si tu vas te marier avec cette intention, tu ne vas pas rester beaucoup avec ton mari, ni lui avec toi. Mais marie-toi avec l'intention que tu vas faire une adoration, que c'est la moitié de ta religion, que c'est pour te stabiliser, car tu n'es pas stable, que c'est pour que Allah Ta'ala soit ravi de moi. Quand j'obéis à mon mari, quand je lui donne son haq, quand je lui prépare à manger, quand je lui lave ses vêtements, quand ceci, quand cela. Je me marie pour avoir des enfants. Je voudrais élever mes enfants, faire d'eux des musulmans, de vrais musulmans, des savants. Pour que, yawm al-qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ravi de moi lui aussi, quand il verra que j'ai été la cause de l'agrandissement de sa nation. Masha'Allah, j'ai 8 enfants avec mon mari, masha'Allah. C'est pas comme les femmes de maintenant. La première semaine, elle prend la pilule. Première semaine, elle commence avec la pilule. Elle dit, après on va voir pour les enfants, après on va voir. Ça, c'est pas un vrai mariage. C'est pas le mariage de l'islam ni de la sunna. Naam. Le mariage où on commence par la pilule. On finit avec la pilule. Quand on a 7, 8, 10 enfants, dit maintenant je suis fatigué, je peux pas, je vais prendre la pilule. On commence avec elle. Je vous dis, naam, réfléchissez bien avant de vous marier. C'est une chose qu'on fait à vie. Et des fois, ça marche pas, on divorce ou là. Sinon, quand on se marie, on doit se mettre dans sa tête que c'est ta vie. Je vais me marier à vie, toute ma vie. C'est comme ça que si tu te maries comme ça, le mariage va marcher. Mais si tu vas dire, je vais me marier avec celui-là et je vais voir, et je vais essayer. Si ça marche, continue, ça marche pas, je vais changer. Ça, jamais, jamais, tu ne seras heureuse. Jamais tu ne seras heureuse. Car tu n'as pas bloqué les autres portes. Tu les as toutes laissées ouvertes. Et chaque jour, tu as une tentation qui te dit, sors de cette porte. Rentre dans cette nouvelle porte. Essaye cette porte. Et comme ça, tu ne seras jamais stable. Mais quand tu bloques toutes les portes, tu dis, je n'ai qu'une seule par laquelle j'entre et je sors. Si jamais il se passe quelque chose, je vais voir comment y aller chercher une autre porte. Mais je n'ai qu'une seule. Non. Tfaddal, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider. Tfaddal.
Une question suivante. Question d'un frère. Salam alaykoum, cher. Je vous aime, Allah. Qu'Allah vous accorde sa proximité et la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les jardins du Firdaus. Je voulais savoir si on pouvait utiliser ce hadith avec d'autres formules, telles Allahu Akbar et La ilaha illallah. Hadith numéro 2615 de Sahih al-Jami'. Donc le frère cher m'a envoyé le hadith, mais il est en arabe. Donc si vous pouvez m'ouvrir le PV, une fois de l'écoute, pour que je vous l'envoie, Inch'Allah. Ou alors, si vous avez la possibilité de le retrouver, parce que je sais que vous avez une bibliothèque sur le PC. Ou alors, je vous l'envoie, Inch'Allah. Tfadda, cher.
Compris musulman, qu'est-ce qu'il cherche dans ce hadith? Qu'est-ce qu'il cherche? Et où est-ce que Fawzi, est-ce que tu es prêt pour l'annonce? Donc j'ai pas compris musulman, qu'est-ce qu'il cherche dans ce hadith?
Je reprends sa question. Donc il dit, je voulais savoir si l'on pouvait utiliser ce hadith avec d'autres formules. Donc c'est juste ça, cher, la question. Est-ce qu'il peut utiliser donc ce hadith avec d'autres formules? Allahu alam, tfadha cher. Donc si vous voulez avoir des détails, cher, le frère est avec moi en PV. Donc il peut me répondre, Inch'Allah. Tfadal, cher.
Quand le prophète Ali Sassam nous apprend un hadith, on doit le réciter intégralement, sans aucun changement. Aucun changement. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train d'apprendre à un sahabi une doua. Et dans cette doua, le prophète lui a dit, alayhi sallam, lui a dit, entre autres, wa amantu bi nabiyik. Il lui a dit, j'ai cru ou bien je crois en ton prophète. Une seconde, elle vous rapporte, le prophète me vit. Quand je bougeais les lèvres, je me demandais des questions. J'ai faut que l'on écoute une telle chose. Non. Ensuite, Mousseline, j'ai pas compris. Donc, je disais, lui a dit, Nabiyik, Amantu bi Nabiyik, c'est-à-dire dit, je crois en ton prophète. Et l'autre, il a dit, je crois en ton messager, il s'est trompé. Normalement, il dit en messager, ça passe, ça. Car tout, yani, ici les messagers, c'est dit qu'il est en même temps prophète. Et pourtant, le prophète Hassan lui a corrigé, il lui a dit, non, ne dis pas rasoulik, dis nabiyik. Non. Muslim, Hassanna, je suis d'accord avec toi pour la traduction, etc. Mais où est la question? Où est la question? Que veut dire la personne ici? Est-ce qu'elle peut dire un mot à la place d'un autre ou quoi? J'ai dit non, elle doit dire comme ça. Même si elle doit écrire le hadith et le lire. Écrire et le lire. Tfadval. Muslim, tfadval.
Non, mes chers, comme le frère est en train de vous entendre, j'attends qu'il me réponde en PV. Et ce zikr, peux-tu le dire avec Subhanallah et Alhamdulillah? Ma question est de savoir si on pouvait le dire Allahu Akbar et autres. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah. Je comprends pas, Akhi. Je sais pas, cher, si vous avez compris, non, je comprends pas. Tfadal, cher.
Répond. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ce hadith avec d'autres, voilà, avec d'autres formules telles que Allahu Akbar, ilaha illallah. On dit seulement avec Alhamdulillah, comme il y a dans le hadith, ou bien avec Subhanallah. Non, exactement comme il y a dans le hadith. Il y a Alhamdulillah et il y a Subhanallah. Subhanallah, mille à ma khalaq, Subhanallah, adada ma fissamatu ma fil ard, Subhanallah, adada ma hsa kitabu, Subhanallah, mille à ma hsa kitabu, et comme ça. Seulement Subhanallah. Et, alhamdoulilah, on ne peut pas ajouter Allahu Akbar ou La ilaha illallah. Naam, j'ai compris sa question. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On a le frère Fawzi qui voudrait demander quelque chose. Tfadhal Fawzi, on t'entend, tfadhal.
Salam alaikum, est-ce qu'il y a du sang? Alhamdulillah. Déjà, cher, je voudrais vous remercier, Barakallahu fik, de m'avoir accordé le fait de pouvoir parler en fait par rapport à une mosquée, Inch'Allah, que nous allons construire chez nous sur Alès, qui est à côté de Nîmes, dans le Gard. Et en fait, nous recherchons des dons de la part des frères et des sœurs pour pouvoir terminer la construction de la mosquée. Et ce projet est suivi bien sûr par Hassan Abou Asma et par Cheikh Abdel Hadi de Marseille. C'est auprès d'eux qu'on demande conseil et eux suivent le projet. Et en fait, il nous manquerait la totalité serait de 21 600 euros. Voilà, et s'il y avait des frères et sœurs qui voudraient nous aider, Alhamdulillah, c'est le bienvenu. Et même en doha, Inch'Allah, c'est les bienvenus aussi. Voilà, c'est tout. Maintenant, si je peux mettre le lien, Chir, pour le RIB, s'il y en a qui veulent faire envoyer de l'argent sur le RIB, si je peux mettre le lien, Barakallahu fik, Chir. Tfadal, Chir.
طيب مي لو ليان هذا سي كوا لو ليان اي ريبيت سي كومبيان لا سوم سي كومبيان لا سوم
لا سوم شيخ il nous reste 21600 euros à récolter. Et alhamdoulillah, la construction a commencé, alhamdoulillah. Mousseline, je t'ai envoyé le lien parce que j'essaie de le mettre sur la roue, mais j'y arrive pas. Barakallahu fik.
Naam. Mousseline, pose inshallah ta'ala la dernière question.
Assalamu alaikum. Est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Je vous lis la dernière question, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, cher, pour tout. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, ainsi qu'à votre famille et aux admins. Amin. Ma question. Si on doit de l'argent à une personne qui est décédée et qu'on ne connaît personne de sa famille, que faire? Tfadal, cher. Le lien, Akhi, je l'ai mis sur le salon, vous ne l'avez pas vu? Parce que Fawzi m'envoie un whisper. Alhamdulillah. Ah, donc je pense que c'est toi qui ne l'as pas vu, Fawzi. Tfadal, cher.
Tayyib, avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que tu m'entends, Muslim? Naam. Regarde donc, je vais te montrer un modèle de des gens yani, qui disent qu'ils souffrent yani, de ne pas pouvoir poser leurs questions, ne pas pouvoir poser les questions. Regardez ici par exemple ce que dit une sœur. Regarde, lis avec moi ce qu'elle dit.
Ah, cher, donc si je lis ce que vous venez de mettre, cher, il est 22h45 en France et dans votre site j'ai beau actualiser la page, toutes les minutes je ne vois pas où poser la question. Peut-être par justice vous privilégiez ceux de Paltalk à ceux qui vont sur votre site sans aller sur Paltalk en attendant d'écouter la rediffusion. C'est embêtant de cliquer toutes les minutes depuis une heure pour savoir quand poser sa question et attendre sans savoir si le lien apparaîtra. Pas d'autre choix. Je ne veux plus aller à Paltalk, dommage, j'ai attendu, mais là je suis fatigué, alors je vais partir du site sans avoir posé ma question. Barclaw fait comme cher, dites-moi quand avez-vous reçu ce mail? Car si vous avez reçu ce mail ces derniers temps, c'est normal. C'est normal puisque vous avez demandé à ne pas prendre les questions sur les sites et de prendre les mains levées. Donc le site ces derniers temps n'est plus activé. Tfadal cher. Donc justement, donc là ça va poser le problème inverse, cher. Ça va poser le problème inverse. Ça veut dire que les gens qui viennent pas sur le Paltalk. Donc c'est ce soir. Non, donc cher, ce soir on n'a pas activé le site. Parce que on en a parlé la semaine dernière et vous aviez dit qu'on va faire un vote à main levée. Donc moi je vous ai suivi, cher. Donc moi je vous ai suivi, on a pris les questions des mains levées. On n'a pas activé le site. Donc là c'est une preuve, cher, que les personnes qui veulent poser des questions sont lésées, dans le sens inverse. Car des personnes ne veulent pas venir sur Paltalk. Tfadal, cher.
D'accord, j'ai compris. Donc je savais pas que ce soir que les questions étaient à main levée. Je croyais que c'était sur le site. Un mohim. J'ai annoncé dans la room. Ça. Malish, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on écrit aussi sur la bannière. On écrit sur la bannière si c'est à main levée ou là si c'est sur le site. Tfadla, je te donne le micro.
Non, mon cher, il y a juste une chose qui m'intrigue dans ce mail. Comment la personne va poser une question sur le site, elle ne vient pas sur le Paltalk, comment va-t-elle entendre la réponse que vous allez apporter à sa question? Là, j'ai pas compris, cher. Je vois pas comment elle va pouvoir écouter votre réponse. Tfadal, cher.
Naam, elle va l'écouter demain en différé, en rediffusion. Elle va écouter sa question en rediffusion. C'est simple, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, donc la dernière question c'était Malish, la prochaine fois Inch'Allah Ta'ala, on va voir la dernière question c'était une personne Naam, qui est endettée. Quand une personne est endettée, elle doit rendre la dette à la personne elle-même qui lui a prêté de l'argent, pas une autre. si jamais la personne à laquelle je dois rendre la dette est morte. J'ai appris ça par yani, sa famille ou bien les journaux ou bien un moyen. Je dois donc chercher yani, ses héritiers pour leur donner sa dette. Je dois chercher les héritiers pour leur donner la dette. Bien sûr, quand la dette, ce n'est pas par exemple 1 euro ou 2 euros. Non, c'est une somme yani, assez importante. Donc je dois chercher les héritiers pour leur donner la dette et ne jamais la donner à un seul héritier. Mais il faut les joindre, leur donner rendez-vous et leur expliquer. Si jamais il n'y a pas moyen comment arriver aux héritiers, qu'est-ce qu'on fait? On va donner cette chose, cette dette, cet argent, cet or, on va le donner à des gens nécessiteux, ou bien à une mosquée, ou bien avec l'intention que c'est pour la personne qui nous a prêté de l'argent. Je répète très vite, il y a trois phases. Je dois donner à la personne elle-même. Je dois lui rendre son MNA. Si je la trouve pas, je cherche ses héritiers. S'il n'y a ni elle, ni ses héritiers, je donne cette chose-là en aumône, et avec l'intention que c'est pas pour moi, mais que c'est pour la personne à laquelle je dois cette chose. Et d'ailleurs, même si tu mets dans ton intention, tu dis c'est pour moi, ça va pas être pour toi. Peut-être tu vas prendre un péché, hein, pour t'être servi de la chose, pour avoir donné une chose qui t'appartient pas, mais tu n'auras pas les récompenses. Les récompenses iront tout le temps à cette personne qui est le propriétaire de cette chose. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي سي سامدي يا كلكان كي فوا باسي لو سيربون يم لو دي سي جامي يا ان سيربون كي فا سي مانيفيستي دونك إن شاء الله تعالى سامدي فو مو لابروندري بإذن الله تعالى توت ان سويتون كو فو نو فوري كان غاف كي سو إن شاء الله تعالى دي بلو بو. Je vous souhaite l'âme de faire un songe véridique et de nous raconter samedi que quelqu'un peut-être a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien là des sahaba, l'un des sahaba dans le rêve. Inch'Allah ta'ala samedi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.